Prions, s'il vous plaît. Notre Père, merci pour le nombre que nous sommes ici ce matin. Merci d'être avec ceux qui sont en déplacement, de les bénir, les encourager, accompagner. Merci de nous faire du bien par ta parole, elle est une nourriture si précieuse. Et Père, nous nous inclinons devant toi. Père bien-aimé, oui, nous t'aimons. Parce que c'est toi qui as placé cet amour dans nos cœurs. Christ, Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu nous as aimés avant même que nous naissions, et tu n'as jamais cessé de nous aimer. Et tu as prouvé ton amour, alors que même nous n'étions pas encore en vie. Et tu nous as révélé ton Fils, et tu as transformé nos vies. Et notre désir maintenant, c'est de t'aimer, de te glorifier, de t'adorer. Merci Seigneur d'avoir créé en nous cette nouvelle vie en Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu est remplie de richesses et de promesses extraordinaires. Notamment au sujet de la prière, ça va être le thème encore de ce matin, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demande. Il y a donc ici une promesse de l'exaucement de prière qu'il faut demander pour recevoir. Mais il faut demander. Il faut prendre le temps de demander. En 1 Jean chapitre 5, il y a un passage sur la prière. Alors, chacun de nous, nous avons certainement, quand nous prions, des versets bibliques sur lesquels nous appuyons pour devant Dieu, plaider, n'est-ce pas, l'exaucement de nos prières basées sur ses promesses. Par exemple, au chapitre 5 de la première épître de Jean, il y a quelque chose d'extraordinaire concernant ce thème de la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance, donc c'est une assurance certaine, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ici, il y a la promesse que si, à condition que nous demandions quelque chose selon sa volonté, il nous donne l'assurance de l'exaucement. Autrement dit, quelqu'un qui prie selon la volonté de Dieu, mais il ne faut pas oublier cette petite préposition qui est indispensable dans notre relation avec Dieu pour l'exaucement de nos prières, nous avons auprès de lui. Donc en fait, l'exaucement de la prière est lié à notre communion avec Dieu. Parce que nous pouvons prier selon la volonté de Dieu et ne pas être exaucés. Il y a aussi une belle promesse que l'on trouve en Jean, chapitre 14 et verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez bien ici, soulignez dans votre Bible, peut-être vous l'avez déjà fait comme moi, c'est écrit tout ce que vous demanderez. Mais aussi, il y a une condition ici, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc on a ici le cas dans lequel Dieu exauce la prière lorsqu'il s'agit de sa propre gloire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors j'ai choisi intentionnellement ces trois passages qui nous montrent que Dieu a des promesses sûres et certaines concernant l'exaucement de nos prières. Maintenant ce matin, je vous invite... un examen de conscience. Pourquoi nous prions et pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées? La Bible est certaine et dit que Dieu veut exaucer nos prières. Le problème n'est pas que les oreilles de Dieu soient bouchées, qu'ils n'entendent plus. Le problème, s'il n'exauce pas la prière, c'est que soit elle n'est pas selon sa volonté, soit nous ne sommes pas auprès de lui, soit nous ne le faisons pas en son nom, en sa présence, dans l'assurance que, oui, étant réconcilié avec Dieu le Père, nous avons un accès auprès de Dieu le Père par l'Esprit. Alors vous avez bien compris qu'il y a des conditions de la prière exaucée. Mais ce matin, nous allons regarder ensemble et nous examiner pour voir quels pourraient être les obstacles à notre vie de prière. Regardons ensemble tout d'abord et soulignons que la prière est le fruit de l'Esprit dans notre vie. Nous ne pouvons pas imiter, fabriquer l'esprit de prière. Ou nous sommes animés d'un vrai esprit de prière, ou nous n'avons pas besoin de prier. La prière est quelque chose qui est le reflet d'une communion avec Dieu. C'est le cœur qui jaillit devant Dieu. C'est quelque chose que le croyant ne peut pas produire par lui-même. C'est le fruit, l'action de la puissance du Saint-Esprit en lui. Et Dieu voudrait nous amener à un réveil personnel, à un réveil dans l'Église. Et c'est lié à la prière. En fait, Dieu exauce la prière qu'il a lui-même exaucée. Dieu est prêt à exaucer des prières extraordinaires. Et lorsque, poussés par le Saint-Esprit, nous prions, et que nous avons cette assurance que cette prière est poussée par Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour glorifier Dieu le Père, c'est une chose extraordinaire. D'être un canal par lequel Dieu passe pour se glorifier, car le but de la prière, c'est la gloire de Dieu. Comment se fait-il, frères et sœurs, reconnaissons-le, que certaines de nos prières ne sont pas exaucées? Bien sûr que Dieu peut-être a un temps pour répondre, mais en même temps, reconnaissons qu'il y a des obstacles à l'exaucement de notre vie de prière. Et nous devons être honnêtes pour nous examiner nous-mêmes et savoir si nous prions dans la présence de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et est-ce que nous prions en ayant l'assurance que Dieu va exaucer notre prière? Nous ne sommes pas appelés à réciter des chapelets, à dire des « je vous salue », n'est-ce pas, comme moi j'ai appris dans mon enfance, ou même des Notre Père, ou réciter des formules magiques au nom de Jésus-Christ, ou même venir à la prière, ou même venir au culte le dimanche matin pour nous assurer que Dieu va exaucer nos prières. En fait, Dieu exauce un cœur qui lui plaît, qui lui est agréable. Il y a des conditions, certes, pour que nos prières soient exaucées, et il y a des obstacles à la prière. Et ce matin, nous allons voir jusqu'où on peut aller, mais j'ai préparé plusieurs points qui sont en fait suggérés, mentionnés, soulignés dans la Bible comme des obstacles à notre vie de prière. Moi, je n'ai pas envie de prier pour réciter des paroles devant Dieu. Je veux avoir l'assurance que quand je prie, je suis en communion avec Dieu. Et Dieu écoute pour m'exaucer. Et c'est extraordinaire, cette liberté que nous avons dans la prière, de prier et de croire que Dieu exauce. Nous prierions beaucoup plus souvent, si nous croyons sincèrement que Dieu exauce la prière, parce que lorsqu'on a cette assurance, on a encore plus envie de prier. Donc c'est une exhortation ce matin à ranimer la flamme de l'esprit de prière en nous, à être animé d'un véritable esprit de prière, authentique, spirituel, puissant, transmis, j'allais dire, par l'au-delà, parce que ça vient du cœur même de Dieu. Le premier obstacle, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui nous en parle, et c'est dans son épître, donc, je vous invite à tourner, en Jacques, chapitre 4 et verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3, et que le Seigneur lui-même dirige ce matin cet enseignement à sa gloire pour nous exhorter à mieux prier. Jacques, chapitre 4, verset 3, il nous est dit, vous demandez, alors juste avant il est dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Une prière qui n'est pas formulée ne peut pas être exaucée. Dieu voit certainement dans nos cœurs le désir de prier, mais il n'exauce pas ce que quelque part nous ne proclamons pas devant lui. Je me souviens, ça me vient à l'esprit, j'étais au Québec dans ma voiture et c'était la première neige. La première neige est très dangereuse, surtout quand vous n'êtes pas né dans le pays, n'est-ce pas, où il neige constamment, 8 mois par an à peu près. Et il faut savoir conduire sur la neige. Mais même en ayant passé plusieurs années au Québec et veillant particulièrement en hiver à une conduite prudente, j'ai pris de la vitesse et je me suis aperçu, j'ai réalisé tout d'un coup qu'en arrivant sur une bretelle pour sortir de la rocade en quelque sorte, je suis arrivé trop vite. Et j'ai réalisé tout d'un coup que, vous savez, quand vous avez expérimenté ça ces jours-ci, non, sur la neige, il faut veiller à ne pas freiner brusquement, ne pas accélérer brusquement. Et là, j'ai vu que ça pouvait être dangereux. Alors, j'ai crié à Dieu. Ça a jailli de mon cœur, ça a pris une fraction de seconde. Mais savez-vous quoi? Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé parce que la roue de mon char, comme on dit au Québec, s'est appuyée sur le trottoir qui avait été dégagé par la gratte qu'on appelle, n'est-ce pas, le chasse-neige, et a fait rebondir la voiture sur le chemin. Alors certainement, j'avais été imprudent, mais même dans nos erreurs, Dieu est miséricordieux et peut écouter nos prières, n'est-ce pas? Et puis j'étais remis sur le chemin. J'allais pas excessivement vite, mais j'allais trop vite par rapport aux conditions climatiques. Et puis un jour qui faisait beau, je passais lentement en voiture et j'ai réalisé que en bas de ce fameux chemin, de cette fameuse bretelle, c'était vraiment à pic. C'est, pas à pic, mais c'était vraiment incliné. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si je n'avais pas pris le tournant, où est-ce que je serais allé? Dieu exauce la prière qui jaillit du cœur, même dans des conditions parfois où on est responsable, n'est-ce pas? Mais Dieu est miséricordieux. Mais si on ne demande pas, Dieu n'exauce pas la prière qui n'est pas exprimée. Dieu prend plaisir à ce qu'on le prie. Même si vous pensez, Dieu sait tout, de toute façon, il est omniscient. Donc, finalement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de prier? Puisque Dieu sait à l'avance ce que je vais lui dire. Ben oui, Dieu veut que l'on prie. Alors, il peut y avoir une prière intérieure, une prière qui jaillit du cœur dans un moment, n'est-ce pas, comme moi je vous ai anecdoté tout à l'heure. Mais quelque part, Dieu exauce la prière qui est proclamée devant lui. C'est une remarque. Parce que des fois, les croyants pensent que, voilà, Dieu sait tout, mais nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Mais il est écrit ici, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ce que j'ai voulu souligner et illustrer parce que l'anecdote que je vous ai partagée. Mais vous demandez et vous ne recevez pas. Comment ça se fait-il qu'on demande à Dieu et que Dieu n'exauce pas? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Touré, dans son livre sur la prière, dit « Un but égoïste prive la prière de puissance. Or, un très grand nombre de prières sont égoïstes. » Ici, il est question des passions. Donc, c'est une prière qui est centrée sur soi-même, qui ne cherche pas la gloire de Dieu, qui a des motivations partagées. L'amour peut-être de Dieu, mais aussi l'amour du monde. Vu le texte qui suit, au verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Certainement, par exemple, on peut prier que Dieu pourvoie à nos besoins, et c'est dans sa volonté que l'on croit que Dieu pourvoie à nos besoins. Mais de commencer à prier, alors je fais une caricature exprès pour vous illustrer et souligner cette vérité, qu'on devienne tous des milliardaires et qu'on roule tous dans des voitures extraordinaires, qu'on ait un jet personnel, vous avez compris. Il y a une raison à avoir dans la prière qui plaît à Dieu seul. Dieu ne nous appelle pas à prier pour nous enrichir, il nous appelle à prier pour que Dieu, lui seul, soit glorifié. Est-ce que nos prières sont attachées parfois de l'amour du monde et des passions qui combattent nos membres, comme dit Paul en Romains, n'est-ce pas? C'est subtil comment la chair voudrait prendre quelque part une certaine part dans la vie de prière, alors que Dieu nous appelle à laisser notre chair être crucifiée à la croix, afin que nos motivations soient pures, soient saintes, soient pour la gloire de Dieu. Ainsi, demander mal ici dans le texte, c'est demander quelque chose qui ne recherche pas uniquement la gloire de Dieu. Par exemple, soyons pratiques, je vous donne trois applications dans notre vie. Nous pourrions prier, par exemple, pour un être cher de la famille, de nos familles qui n'est pas sauvé. Une épouse, par exemple, peut prier pour son mari. Elle peut prier pour que son mari soit sauvé, ça irait tellement mieux à la maison. Enfin, la paix, la tranquillité, la possibilité de prier ensemble, d'élever les enfants ensemble, tout ça n'est pas faux, mais ce n'est pas la vraie motivation de prier pour le salut de son mari. La vraie motivation, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ profane à ses pieds la vérité de la croix et le sang précieux de Christ et ne glorifie pas Dieu. Bien sûr qu'on peut avoir de bonnes motivations en pensant au résultat de l'exaucement de la prière, mais la vraie motivation, ça devrait être le fait qu'une personne doit être sauvée, parce que tant qu'une personne n'est pas sauvée, elle ne glorifie pas Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on soit des adorateurs en esprit, en vérité, et tant qu'un être n'est pas régénéré, il ne glorifie pas son Dieu pour lequel il a été créé. Bien sûr qu'on doit prier pour le salut d'une âme en pensant, n'est-ce pas, au bienfait que ça apporterait. Mais n'oublions pas que l'enjeu, c'est une question de foi, d'incrédulité, de ciel et d'enfer. Et on doit prier avant tout pour que l'âme soit sauvée pour l'éternité, pour glorifier Dieu. Un deuxième aspect aussi, c'est que nous pourrions prier pour un réveil. Un réveil personnel ou un réveil dans l'Église. Mais parfois, nos prières, n'est-ce pas, en vue d'un réveil, sont tellement entachées du résultat que l'on escompte, n'est-ce pas, sans le prix à payer. Là aussi, si nous cherchons un réveil personnel, un réveil de notre Église, un réveil dans notre pays, il y aura un coût à payer. Il y aura un coût à payer de passer du temps avec Dieu avec des motifs vraiment purs, non pas pour que notre Église soit encore plus connue, plus remplie, plus réputée, etc., mais pour que la gloire de Dieu éclate. Nos motivations doivent être purifiées afin que lorsque nous prions pour un réveil, Dieu entende, parce que nos cœurs sont basés réellement sur la parole de Dieu. Un troisième aspect que j'ai voulu mentionner, c'est que nous recherchons souvent la plénitude du Saint-Esprit. C'est tellement plus heureux, n'est-ce pas, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la paix, la joie. Il y a un bonheur dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des combats, n'est-ce pas? Mais parfois, nous prions Dieu, que Dieu nous accorde sa plénitude, parce que nous voulons être des croyants joyeux. Et nous voulons goûter aux résultats, n'est-ce pas, de la plénitude sans passer par la croix qui, elle, accorde la plénitude, mais qui souvent nous fait passer par le brisement intérieur ou la confession de nos péchés. Ainsi, nous devons apprendre, lorsque nous prions, à ne pas prier pour nos passions, satisfaire nos passions, notre ego, mais à prier selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et à rechercher la gloire de Dieu. Alors, peut-être que ce langage vous surprend, mais laissons-nous sonder par Dieu et laissons-nous sonder dans nos motivations lorsque nous prions pour voir pourquoi nous prions. Et reconnaissons que notre esprit de prière est peut-être bien faible. Que nous n'avons pas cet esprit de prière que Dieu voudrait nous accorder parce que nous n'avons pas vraiment encore compris ce que c'est qu'une relation avec Dieu intime dans la prière. Et voir, vous savez, quand on a étudié d'autres aspects de la prière, l'apôtre Paul parle souvent de l'agonie de la prière. Est-ce que nos cœurs sont vraiment saisis par le fardeau même de Dieu lui-même? Est-ce que nos prières viennent de Dieu ou est-ce qu'elles sont entachées de nos propres motivations? Et parfois, il faut le dire, nos motivations impures. Un deuxième aspect pour lequel le Seigneur nous met en garde se trouve en Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ici, Ésaïe nous parle d'un obstacle qui pourrait être majeur dans nos vies. Il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'était le cas d'Israël dans l'Ancien Testament, et il faut dire que ça peut être le cas de nous, les enfants de Dieu régénérés. Nous pensons que non, Dieu n'intervient plus. Pourtant, nous avons bien prié. Nous pensons que Dieu n'écoute pas. Et la réponse de Dieu, dans ce cas-là, c'est « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » En fait, quel est le père ou la mère qui voudrait récompenser un enfant, qui viendrait demander une récompense ou un cadeau après avoir été si désobéissant? Aimeriez-vous gâter un enfant comme cela? Ce serait une terrible injustice et un mal terrible que vous feriez à l'enfant. Mais si vous voyez votre enfant obéissant et selon, n'est-ce pas, les voies du Seigneur, c'est beaucoup plus facile de vouloir le récompenser. Et c'est la même chose vis-à-vis de nous. Le péché est l'obstacle qui fait que nos plafonds deviennent des plafonds d'airain, qui semblent que la prière ne peut plus atteindre Dieu. C'est peut-être une faute passée qui n'a été ni confessée, ni jugée. La confession du péché dans nos vies est nécessaire pour retrouver la communion avec Dieu. Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Nous pourrions faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Mais ce qui lui plaît au Seigneur, c'est l'humilité dans notre marche et la confession de nos péchés. Reconnaissons que peut-être nous avons un péché dans le passé qui n'a pas été confessé. Laissons-nous sonder par Dieu. Dans la prière, peut-être que c'est même au moment où je prie que Dieu me parle et que je sais que quelque chose revient. Et c'est peut-être là où Dieu veut me parler pour me montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut que je mette en règle avec Dieu. Ça peut être aussi un péché actuel qu'on chérit, que très probablement on ne regarde même pas comme un péché, parce que ce qui est terrible dans la vie de la chair, même du croyant, c'est qu'on s'habitue, à flirter avec le péché. On s'habitue à ne plus voir le péché comme Dieu le voit. En fait, la repentance, dans le grec, métanoïa, c'est de voir le péché comme Dieu le voit. C'est un changement de mentalité, d'esprit, parce que nous déclarons exactement le péché comme Dieu le déclare. Et nous le voyons exactement comme Dieu le voit. Et nous sommes contrits parce qu'en péchant, nous offensons Dieu lui-même. Et donc un péché passé, non confessé, un péché chéri, gardé, une désobéissance à Dieu, un endurcissement de cœur, un entêtement dans une certaine situation, fait que lorsque nous prions pour être éclairés, la lumière ne vient pas, parce qu'il n'y a pas la confession, l'abandon de ce qui devrait être mentionné devant Dieu. Par exemple, dans le psaume 139, je ne sais pas si vous lisez les psaumes où il y a quantité de prières et donc le désir du cœur souvent exprimé par le psalmiste. Il est écrit dans le psaume 133 et verset 23, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ici, le psalmiste reconnaît que devant Dieu, il a besoin d'être sondé, il a besoin d'être éprouvé, afin que son cœur lui soit révélé comme Dieu le voit. Et certainement, c'est quand on lit la parole, n'est-ce pas, que la parole nous éclaire sur ce que nous sommes. Et parfois, nous n'avons pas envie de savoir ce que nous sommes, parce que nous n'avons pas envie d'abandonner notre péché. Où nous n'avons pas envie de nous laisser transformer jusqu'à ce que Dieu remette exactement le même sujet et pointe de son doigt divin et gracieux, même parfois, je dirais, l'obstacle qui est dans notre vie. Dans le psaume 66, verset 18, le psalmiste dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Je répète, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Cela confirme ce que dit Ésaïe, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors nous sommes dans une société, n'est-ce pas, qui est parfois prenante, stressante, envahissante avec l'esprit du monde. Et reconnaissons que nous avons besoin parfois de nous secouer les pieds de cette poussière du monde qui veut s'attacher, n'est-ce pas, à nous. Nous avons besoin de secouer nos mains, nous avons besoin de purifier nos esprits. Parce que le monde voudrait s'agripper à nous et Satan, quelque part, cherche une brèche dans nos vies, n'est-ce pas, pour nous rendre esclaves de ses pensées, esclaves de sa volonté. Donc nous avons besoin, et soyons honnêtes, chacun de nous, nous le pratiquons certainement. Nous avons besoin d'aller vers Dieu et de confesser nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs à Dieu, dans l'intimité de notre chambre ou d'un lieu secret où nous nous trouvons avec le Seigneur, et de lui dire exactement ce qui est dans notre cœur. Et quand Dieu nous parle, tu dis « Oui, Seigneur, tu as raison. Cela, je dois l'abandonner. Je dois arrêter de m'entêter. Je dois céder et obéir et me soumettre à ta volonté. » Thoré, dans son livre, dit ceci, « Si une chose quelconque nous revient sans cesse à l'esprit dans nos moments d'étroite communion avec Dieu, c'est cette chose qui fait obstacle à la prière, jetez-la. » Rejetez-la. Reconnaissons que la vie de prière est une lutte. Nous luttons contre notre chair, qui est paresseuse, qui est tentée, qui peut être tentée de toutes sortes de choses juste au moment où on veut prier. Satan s'arrange et notre chair nous pousse tout d'un coup à penser qu'on a mis une chose à faire. Il y a tellement des choses plus importantes que de prier. Et reconnaissons aussi que parfois les traits enflammés du malin, n'est-ce pas, se présentent et que nous devons combattre avec le bouclier de la foi jusqu'à percer en quelque sorte le ciel, quoi qu'il soit ouvert, vous comprenez cette image, pour que vraiment nous soyons dans la puissance de la prière et l'assurance de la prière. Donc notre purification est indispensable. La purification à la cuve d'airain est indispensable. Et parce que le croyant peut être entaché de bien des choses de ce monde, par le regard, par la pensée, par la philosophie de ce monde et par le prince de ce monde. Un autre passage nous est donné, si vous voulez bien continuer avec moi, Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14 et verset 3. Vous savez qu'Ézéchiel, je suis en train de lire justement le livre d'Ézéchiel en ce moment, dans mon culte personnel. C'est une sentinelle que Dieu a établie. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 14 et verset 3. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, sentinelle en Israël, n'est-ce pas ? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. L'idole... Alors, le verset ici, je ne me suis pas trompé en lisant le passage parce qu'il parle d'idolâtrie, mais je dois avoir une erreur, excusez, dans ma référence, puisque j'ai le texte, alors je ne sais pas quel verset c'est. C'est le verset 3, j'ai lu le verset 4, c'est ça. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?» Me laisserai-je consulter par eux ? Le danger de l'idolâtrie. Alors c'est surprenant, en lisant dans l'Ancien Testament, le nombre d'idoles qu'Israël pouvait avoir. Entaché par des fréquentations avec les autres peuples, n'est-ce pas, et voulant quelque part copier la philosophie de vie. Vous savez comment Lot est allé vivre en Sodome et Gomorre, est devenu un des leurs, n'est-ce pas? Et si Abraham, qui est le type de Jésus-Christ, n'avait pas intercédé auprès de Dieu le Père, Lot aurait péri dans le jugement de Dieu vis-à-vis de Sodome et Gomorre. Mais c'est incroyable comment le cœur peut devenir idolâtre. Alors on sourit parce que comment se fait-il que dans des églises il y ait des statues, n'est-ce pas? Mais quand on est dedans, moi-même, j'ai prié des statues pendant des années, tout en étant sincère, sincèrement perdu, sans le savoir, mais perdu. J'ai prié des saints et des statues. Et j'allais brancardier à Lourdes l'été, n'est-ce pas, et faire le chemin de croix, monter les escaliers à Lourdes et faire 10 « Je vous salue » par marche, n'est-ce pas, et croire que Marie pouvait guérir, etc., et puis prier les saints. J'avais toute cette panoplie, parce que c'était l'éducation religieuse qu'on m'avait donnée, et j'étais sincère, mais j'étais perdu, sans le savoir. Savez-vous quoi, qu'au lieu d'une religion ou de statut, on peut avoir comme idole un être cher, un mari, une épouse, un enfant? On peut remplacer Dieu parce qu'en fait, le cœur est fait pour adorer. Mais lorsqu'on n'adore pas Dieu en esprit, en vérité, le cœur devient idolâtre. Alors on peut adorer la télévision qui peut prendre une grande place. Il paraît que les Français en moyenne, les adultes, passent 4 heures par jour devant la télévision, statistique. On peut passer du temps dans le sport. Alors, dans un sens, c'est pas mauvais. Il faut pouvoir le relativiser. Mais quand ça devient une idole, les stars qui deviennent des idoles, avec des salaires extraordinaires, il y a une espèce d'engouement, n'est-ce pas, pour aduler les gens. Mais comment ça se fait qu'on adule des idoles humaines et qu'on n'adore pas Dieu? Notre société, alors on pourrait dire beaucoup de choses, eh bien on peut adorer le loisir, l'hédonisme. Notre société a fait de l'hédonisme une certaine idolâtrie. Bien sûr qu'il faut apprendre à vivre, enfin, tant que possible, hein, parce que l'hédonisme n'est pas toujours synonyme de vivre en famille, se détendre. Enfin, aujourd'hui, on est une société où on a droit au plaisir. On veut avoir droit à l'accès au plaisir. Il faut avoir du plaisir dans la vie. Bon, mais des fois, ça devient tellement un piège, n'est-ce pas? Alors, pour l'un, c'est l'idolâtrie de l'argent, la renommée, les affaires, le travail. On peut devenir fanatique du travail. On peut être attaché à l'argent. Savez-vous que la Bible dit que la cupidité est une idolâtrie? En fait, tout ce qui remplace Dieu devient une idolâtrie. Et l'idolâtrie la plus subtile et la plus reconnue, c'est soi-même. C'est d'être imbu de soi-même. Et de faire de son moi une norme, n'est-ce pas, de tout ce qui doit être fait basé sur ses émotions, sa volonté, son intelligence. C'est ce qu'on appelle l'humanisme, où l'homme est la mesure de toute chose. Tandis que la théologie, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Alors bien sûr, laissons-nous sonder par Dieu, parce que nous sommes humains. Mais reconnaissons et posons-nous la question suivante: Dieu a-t-il la première place dans notre vie? Dieu a-t-il la première place dans notre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui fait obstacle à notre vie de prière? J'aimerais donner un exemple, je l'ai noté ce matin sur mes notes. Je me souviens quand Louis et moi nous sommes fréquentés les premiers jours, ce qui était extraordinaire, ce qu'on a trouvé merveilleux, c'est qu'on a passé beaucoup de temps dans la prière. Et on a trouvé que Dieu prenait plaisir à nous mettre ensemble à la prière. Et quand on priait, on ressentait la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Et on était poussé à prier encore plus ensemble. Et on était poussé à lire encore plus la Bible ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on était en train de fabriquer soi-même. C'était Dieu qui était en train de nous unir ensemble. Dans notre cheminement de vie, lorsque la vie de prière grandit, se développe, c'est bon signe. Notamment lorsqu'on fréquente un jeune homme ou une jeune fille. La vie de prière est la jauge de notre le thermomètre, si vous préférez, de notre véritable santé spirituelle. Combien de temps passons-nous dans la prière jour après jour? Il semble qu'en moyenne, bon, c'est des statistiques que j'ai lues il y a longtemps, mais le croyant passerait 5 minutes par jour dans la prière. 5 minutes. Alors, si le Français moyen passe 4 heures devant la télé, on peut peut-être penser que nous, les croyants, nous devrions plutôt être à genoux et prier et avoir du zèle dans la prière. Un quatrième aspect, je vais terminer avec cela, se trouve en Proverbe 21-13, si vous permettez. Proverbe 21-13. Proverbe 21-13. Alors ce matin, j'ose dire que le Seigneur nous place dans un moment de nous laisser sonder par lui, puis nous en avons besoin. Et nous le louons pour sa parole qui est une lumière sur notre sentier. Proverbe 21, verset 13, il est écrit « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. T'aurais dit, il n'y a peut-être pas plus grand obstacle à la prière que l'avarice. Le manque de libéralité à l'égard des pauvres comme à l'égard de l'œuvre de Dieu. Celui qui donne généreusement reçoit abondamment de Dieu. Luc 6, 38 dit, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » L'homme généreux, dit Thoré, est puissant dans la prière, tandis que la prière de l'avare est sans puissance. Comment se fait-il que le manque de générosité est un obstacle à la vie de prière? Parce que le manque de générosité dans nos vies est le reflet de l'incrédulité. Lorsque nous cessons de donner, c'est que nous ne croyons pas que Dieu est en train de pourvoir nos besoins. En fait, Dieu nous donne pour qu'on donne aux autres. Il y a plus bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vous ai déjà donné et cité l'exemple de Georges Müller, n'est-ce pas? Un homme qui trompait, on n'a pas l'occasion beaucoup de dire cet aspect de la vie de Georges Müller, parce qu'on est tellement ébloui par sa vie de la foi, à partir du moment où il a fait cette prière à Dieu, « Seigneur, donne-moi un ministère dans lequel ton nom soit glorifié. » C'était la prière de Georges Müller. Et Dieu a transformé son cœur pour qu'il puisse être un homme de la foi et vivre, n'est-ce pas, par la foi et nourrir des milliers d'enfants, des orphelins, dans des orphelinats, par la foi, sans avoir jamais plus d'argent pour plus de 3 jours. Et c'est arrivé que même lors du petit déjeuner de ses enfants, il a prié Dieu sans avoir aucun aliment, pas du tout de lait, pour les nourrir, et la charrette du laitier s'est arrêtée parce que sa roue s'est brisée, et par hasard, ben voilà, il a dit, ben écoutez, ce lait, il va périr, est-ce que vous pourriez le prendre? Et Georges Müller, alors lisez son livre, c'est extraordinaire, a vécu par la foi, et des milliers d'exemples nous sont retracés, racontés dans sa vie. Mais Georges Müller, jeune, trompait son père régulièrement. Il faisait des études, il avait toujours des besoins particuliers, il ne payait pas ce qu'il devait, il avait plein de dettes, et il volait son propre père. Et il a confessé devant Dieu, une fois qu'il s'est converti, que c'était un homme qui aimait l'argent, qui était cupide, et qui volait les autres. Voyez-vous comment Dieu l'a transformé, Georges Müller? C'est extraordinaire. Et Dieu a permis que cet homme-là puisse nourrir des centaines et des milliers d'enfants pendant des années, juste par la foi, parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. La générosité, le fait de donner, est lié à notre confiance en Dieu. Parce que Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. C'est vrai cela. Alors reconnaissons que parfois, nous nous inquiétons. Mais souvent, Il semble que 90% de nos inquiétudes ne sont pas vraiment basées sur des faits qui devraient nous inquiéter. Il y a certainement des inquiétudes qu'on peut avoir dans la vie. Mais la Bible dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est incroyable lorsque nous donnons combien Dieu nous donne en retour. Ce qui plaît à Dieu, c'est la libéralité. D'ailleurs, il y a dans la parole de Dieu, il n'y a aucun don, que ce soit la dîme, que ce soit l'action de grâce, que ce soit une offrande volontaire, que ce soit même l'aumône qui est une offrande apportée aux pauvres. Il n'y a les différentes sortes de dons sont toujours entourés du mot libéralité, qui veut dire générosité. Dieu prend plaisir à ce que nous soyons généreux. Vous avez peut-être entendu parler, et je termine avec cela, d'un ingénieur qui s'appelait Letourneau. Il y a une université aux États-Unis qui a son nom. Et cet homme a demandé au Seigneur que ses affaires soient conduites par lui. Eh bien, faites-vous quoi ? Quand il a commencé ses affaires, il a frôlé plusieurs fois la faillite. Et il a dû apprendre à faire confiance en Dieu. Et Dieu lui a donné une vision un jour, alors qu'il était en train de dessiner sur sa table à dessin. Vous savez, ces gros engins que l'on voit dans les BTP, n'est-ce pas, qui roulent avec, qui font toutes sortes de choses sur les routes. Mais c'est un croyant qui a eu cette vision d'inventer ces grosses machines, n'est-ce pas? Et cet homme-là est devenu multimillionnaire. Et savez-vous quoi? Il a dit, Seigneur, on est parfois appelé à donner 10% de nos revenus, mais moi je vais te donner 90%. Et par la foi, cet homme-là, petit à petit, a donné 90% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Et Dieu l'a béni. Son ministère, tout en étant un homme d'affaires, a permis de soutenir des missionnaires dans le monde entier, créer une université, ou même en forme des serviteurs de Dieu. Alors, c'est un appel peut-être particulier, mais ce que je veux dire par là, c'est que la vie de prière se voit aussi dans la façon avec laquelle on donne. Dieu prend plaisir à ce que l'on donne avec générosité. Parce que c'est une confiance en lui qui se manifeste. Voyez-vous, nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous sommes en chemin pour le ciel. Et nous devons sur terre apprendre à vivre par la foi. Parce qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Et nous allons vivre en le voyant, en le contemplant, c'est vrai. Mais en attendant, Dieu nous appelle à lui faire confiance, à vivre par la foi. Et pour cela, avoir des prières centrées sur Jésus-Christ, non pas sur nous-mêmes, sur nos passions, avoir des prières qui cherchent à le glorifier, qui n'est pas pour motif, des motifs égoïstes, des motifs, n'est-ce pas, impurs. Et puis, puisque notre vie de prière est le reflet de notre communion avec Dieu, Dieu nous demande de chasser toute forme d'idolâtrie dans notre vie, afin d'être attaché à Jésus-Christ, le cep, pour que la sève coule et se manifeste. Prions. Notre Père céleste, tu nous places ce matin devant toi, et c'est vrai que nous avons besoin de nous laisser sonder par ta parole, par ton esprit. Seigneur, tu prends plaisir à prier au travers de nous, à nous exaucer, à nous faire toutes sortes de dons, de cadeaux, du don de l'esprit, de ta paix, de ton amour, de ta bonté. Tu prends tellement plaisir à vouloir nous faire plaisir, parce que tu es un Père riche en bonté, en miséricorde. Et tu nous appelles à vivre par la foi, et ça t'est agréable de nous voir vivre par la foi. Ça t'est agréable aussi de voir tes enfants prier, t'adorer. Et nous confessons, Seigneur, que nous avons tellement besoin d'apprendre encore à prier. Nous avons besoin de recevoir de toi la façon avec laquelle tu veux que nous prions. Et je comprends cette prière des disciples qui disaient, Jésus, enseigne-nous à prier. Oui, enseigne-nous à prier, Père, pour que ton nom soit glorifié. Pour que notre vie te glorifie, pour que cette Église te glorifie. Amen.